24. 9h29. La main de Ruben Liberos se posa sur l'épaule de Leili. Trop tard. La porte de la chambre 17 de l'hôtel Ibis de Port-de-Bouc était déjà entrouverte. Une douzaine d'yeux se posèrent sur Leili, presque aussi surpris qu'elle. 12 grands yeux blancs. 4 hommes, une femme et un adolescent. Un homme sortant de la douche torse nu, un autre penché sur une guitare, deux autres levant les yeux de leur livre. L'ado était assis, de dos, la femme coiffait ses dreadlocks. Leili reconnut Noura. Des Africains, subsahariens. Une théière fumait sur la table de chevet.
« Ma princesse du désert, » fit Ruben dans son dos, « je bénis ma fortune que ce soit vous qui découvriez mes protégés. »
Leili avança dans la pièce. Elle tenta de sourire à Noura, mais le regard de sa collègue de ménage glissa sur elle sans exprimer le moindre sentiment.
« Installez-vous, belle enfant !»
On lui fit de la place sur l'un des deux lits de la chambre alors que Ruben s'expliquait.
« Le taux d'occupation de mon palais est très exactement de 58%. Je vous cite les chiffres très sérieux établis par les grands argentiers de l'Empire Accor. Il monte à 87% l'été et descend à moins de 30% l'hiver. Cela représente en moyenne 27 lits dans 13 chambres vides chaque soir. Une goutte d'eau parmi les plus de 500 000 chambres mises à disposition dans le monde par l'Empire. Alors, ma belle, pensez-vous vraiment que Ruben Liberos pourrait laisser ses portes fermées alors que dorment dans la rue des centaines de voyageurs sans toit ? J'ouvre chaque soir mes chambres libres aux passagers du vent. Gratuitement. Sans aucun engagement. Pour un soir. Une semaine. Aussi simplement qu'on partage un repas trop copieux avec un voisin qui a faim. Leili fixa Ruben. Son costume anthracite. Sa cravate noire. Ses cheveux gris gominés. Qui aurait pu soupçonner que sa prestance élégante, ses habits impeccables dissimulaient l'étoffe d'un résistant ? Sûrement pas ses supérieurs de la chaîne Accor, en tout cas. Le gestionnaire de l'hôtel continuait de discourir. Leili avait compris que sa mégalomanie de pacotille masquait une vraie timidité. Mythomane, baratineur, mais cette logorée servait de paravent à sa véritable nature. Un héros du quotidien. Il est plus facile de noyer la vérité dans un océan de mensonges. Par pitié, Leili, ne me regardez pas ainsi avec vos yeux de gazelle où je vais devoir mettre à la porte sur le champ tous nos amis, rien que pour partager avec vous mon palais des mille et une chambres. Votre serviteur ne fait que son travail de salarié anonyme, soucieux de la réputation de l'entreprise qu'il emploie. Héberger des hommes et des femmes en quête d'aide partout dans le monde, même si elle ignore tout de mes, disons, mes petits arrangements. En 78, j'ai logé pendant un mois 53 familles cambodgiennes dans l'Ibis d'Hanoï. En 93, dans l'Ibis de Kigali, j'ai sauvé 127 Tutsis qui...
Un petit homme, le plus âgé de tous, qui portait d'épaisses lunettes et un pantalon de toile beige dans lequel il flottait, l'interrompit.
Il n'y a jamais eu d'hôtel Ibis à Kigali, mon frère.
Ruben éclata de rire.
Zahirine, vieux crabe, sale ingrat. Je t'héberge au péril de ma réputation et tu me fais passer pour un affabulateur devant les deux plus belles filles que la terre d'Afrique ait portées.
Leili et Noura sourirent. Ruben continua d'expliquer qu'il offrait l'hospitalité aux migrants en fonction de ses disponibilités, qu'il ne connaissait généralement que dans la soirée. Sans jamais entasser les clandestins. Une famille par chambre, un homme ou une femme par lit, même si, le soir venu, il était fréquent que les fratries ou familles élargies se retrouvent dans une même chambre, ou dans le hall pour discuter, chanter, jouer de la musique.
Ou simplement écouter les histoires interminables de Ruben Liberos,
fit l'homme à lunettes dont les yeux pétillaient de malice.
« Ce vieux fou ne nous accueille que pour avoir un auditoire chaque soir. »
Ruben éclata encore de rire.
« Je comprends que le président Kérékou ait essayé 10 fois de t'assassiner, vieille vermine immortelle. »
Il se tourna vers Leili.
Vous connaissez déjà la très jolie Noura, qui partage avec vous la responsabilité de faire briller de 1000 feux ce château. »
Noura la gratifia d'un nouveau regard glacial.
« Je vous présente mon ami cher, Savorgnan Azanaï. »
Savorgnan se leva. Il émanait de lui un mélange de sagesse dans son regard bleu-noir et de force féline dans la douceur presque féminine de ses gestes. Ce magnétisme des êtres d'exception, de Mandela à Obama.
« Tu es Layli ?»
fit Savorgnan.
« Layli Mahal ?»«
Oui, » répondit-elle surprise.
« J'ai rencontré ta fille hier, Bambi. Elle a hérité de ta beauté. »
Savorgnan soutint le regard de Layli. Un regard d'amitié dans lequel elle ne lut aucune ambiguïté. Une simple fraternité. Mais elle sentit aussi se planter dans son dos les yeux de Noura, tranchant de jalousie. La jeune fille était amoureuse de Savorgnan. Une amoureuse muette qui espérait sans doute que ses gestes parlent pour elle.
« Je connais mieux ton fils, » continua Savorgnan, indifférent au langage corporel de Noura. « J'ai souvent rencontré Alpha. Il nous a proposé son aide. On y réfléchit. »
Layli hésita à l'interroger davantage. Savorgnan avait laissé traîner ses derniers mots. « On y réfléchit. » Elle crut y déceler des points de suspension. On attend d'y voir plus clair. On se méfie. Elle comprenait sans rien savoir de leurs affaires. Alpha était un garçon ambitieux et déterminé. Droit et loyal, mais ne laissant personne d'autre que lui tracer la frontière entre le bien et le mal. Peut-être parce qu'il aimait vivre en funambule sur cette ligne. Avec intelligence, souvent. Avec violence, parfois. Un bref silence enveloppa la pièce. Layli en profita pour scruter chaque détail de la chambre 17. Les cigarettes écrasées dans un cendrier, les bouteilles de bière vides et les cartons de pizza ouverts, quelques coquillages dans un bol de verre. La théière continuait de fumer sur la table de chevet. Une tasse était posée près de chaque homme. Un bracelet bleu ornait le poignet du guitariste. Celui au poignet de l'ado était rouge. Zahirine n'en portait aucun, pas davantage que Savorgnan. Layli remarqua sa bague à l'annulaire. Une alliance. Elle réalisait qu'à part Noura et l'ado, les occupants de la pièce avaient tous plus de 30 ans. Pourtant, elle ne voyait dans la pièce aucun objet pouvant rappeler la présence d'un enfant. « Et vos familles ?» demanda-t-elle. Savorgnan porta le thé à ses lèvres.
« On tente tous de les faire passer. On vient tous d'arriver, tu sais. Assieds-toi et regarde. »
Le Béninois sortit de son portefeuille une photographie. Il posait à côté d'une fille rayonnante, aux longs cheveux lissés, et 2 enfants de moins de 8 ans.
« Babila, ma femme. Elle est infirmière. Kayvan, mon fils, est dingue de train. Il rêve de conduire un jour un TGV. Safi, c'est ma petite princesse. Elle veut ouvrir une boutique de mode, un salon de coiffure. N'importe quoi pour aider à rendre les femmes plus belles. »
Noura se leva brusquement. Elle semblait avoir du mal à supporter le regard attendri de Savorgnan sur sa famille. Elle attrapa le balai dans la penderie, fixa Layli et avança vers la porte en claquant des talons pour bien faire comprendre qu'elle n'était pas payée à regarder des photos sur un lit en buvant du thé. Ruben intervint calmement.
« On a le temps, Noura ! Tout le temps ! La poussière se pose plus vite sur nos cœurs que sur les meubles !»
Elle haussa les épaules et sortit. L'atmosphère parut soudain apaisée. Layli se tourna vers Savorgnan.
C'est dangereux, non, de les faire passer?
Il sourit et s'exprima comme s'il était le porte-parole des 3 autres hommes.
Imagine, Layli. Imagine. Même si j'obtenais des papiers. Même si j'obtenais un vrai travail avec une carte de séjour officielle. Sais-tu combien de temps il faut pour faire venir sa famille ?»
Layli ne répondit pas.
« Une vie, peut-être. Obtenir un visa prend quelques jours pour un Canadien, un Suisse, un Japonais. Mais une vie souvent n'y suffit pas pour une famille africaine. Raconte, Darius, raconte. »
L'homme assis sur son lit posa son livre. Il était âgé d'une cinquantaine d'années.
J'accompagne mes frères ici, mais je ne suis pas clandestin. Je vis en France depuis 7 ans maintenant. Ma femme et mes 4 enfants sont restés au Togo. Je travaille à l'entrepôt de la Régie des Transports de Marseille. Je gagne 1200 euros par mois. C'est le salaire minimum pour effectuer une demande de regroupement familial à la préfecture. Mais il existe une seconde condition pour accueillir sa famille. Posséder un logement d'au moins 10 mètres carrés par personne, y compris les enfants. J'essaye depuis des années d'obtenir un logement d'au moins 60 mètres carrés, même s'il me coûte les 3/4 de ma paye. Mais qui voudrait louer un T3 à un smicard célibataire ?
Savorgnan avait tiré la théière vers le centre de la pièce. Ils étaient tous assis sur les 2 lits, tels des étudiants refaisant le monde dans une chambre du Crous. L'homme le plus âgé, Zaérine, continua.
Les Français sont malins. Ils ne refusent pas à nos femmes et nos enfants de venir. Ils nous ouvrent les bras. Ils nous aiment tellement qu'ils veulent nous accueillir décemment. Il suffit ensuite aux enquêteurs de décider que le nombre de pièces du logement pour notre famille n'est pas suffisant. Ou la plomberie trop ancienne, la douche trop froide, le grenier trop humide, l'escalier trop raide.
Les yeux de Zaérine brillaient derrière ses lunettes.
N'est-ce pas délicieusement combiné, Layli ? Refuser à nos familles le droit de vivre ensemble au prétexte qu'elles mériteraient un confort qu'elles n'ont jamais connu. Un confort qu'elles n'espèrent même pas.
Après un court silence, Savorgnan renchérit.
Les enquêteurs sont désignés par les mairies. Quelle mairie voudrait s'encombrer de familles étrangères qui ne votent même pas ? Ils se refilent les mistigris. 36 000 communes. L'État français a explosé ses droits de l'homme en 36 000 morceaux.
Ruben se pencha vers la table de chevet au centre de la pièce.
« Aux droits de l'homme !» fit-il. « Et à ceux qui y croient encore !»
Il sortit de sa poche une fiole de liqueur 43 et en proposa aux hommes. Savorgnan refusa, mais les 3 autres acceptèrent.
« Mes amis !» fit Ruben. Je lève mon verre à cette terre d'asile que fut la France. À cette terre d'asile qui m'accueillit en 71 quand je fuyais Franco. Qui accueillit mes frères polonais en 1848, mes frères arméniens en 1915, mes frères russes en 1917, mes frères portugais, grecs et cambodgiens après moi. À cette terre qui la première au monde inscrivit dans sa constitution de 1793, le devoir d'asile aux peuples opprimés de la terre. »
Il but sa tasse cul sec, puis la retourna, vide. Zaérine vida lui aussi sa tasse, puis commença à se débraguetter tout en se dirigeant vers les toilettes.
« Eh bien, moi, je vais pisser sur cette terre qui a su se rendre si inhospitalière même envers ses frères francophones africains qui pourtant l'aiment tant. Cette terre qui traite en hors-la-loi les 300 000 réfugiés qui survivent en France, pendant que l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne en régularisent plusieurs millions. Sur cette France qui vieillit et qui n'arrive plus à payer les retraites et les soins des personnes âgées, qui demandera à ses habitants de travailler jusqu'à 70 ans, alors qu'à sa porte, les pays africains ne savent pas quoi faire de leurs jeunes désœuvrés. »
Zaérine disparut dans les toilettes. Savorgnan posa sa tasse de thé et prit le relais. Il s'adressa à Layli comme si elle était responsable des lois sur l'immigration. Elle n'osa pas répondre pourtant. C'était rare, si rare d'évoquer ces questions. Elle les vivait mais n'en discutait jamais, avec personne. Les travailleurs étrangers comme elle étaient isolés, se levaient tôt, rentraient tard. Errait dans les bureaux déserts, s'enfermait dans le silence des premiers et derniers RER, avait d'autres soucis que de philosopher. « Si éloignée, pensa Layli, des damnés de la terre de ses romans préférés, de Zola ou de Steinbeck, se serrant les coudes, se syndiquant, défilant dans les rues. Aujourd'hui, les travailleurs immigrés formaient une internationale éclatée, tellement plus facile à exploiter. Tout cela trottait dans la tête de Leïli, sans qu'elle ose l'exprimer. Elle écoutait.
« Nous ne venons pas voler les richesses des Français, » expliqua Savorgnan en agitant les mains, « ni même leur demander de les partager. Nous venons les créer, travailler, consommer, nous marier, faire des enfants. Nous voulons juste la liberté. De quoi ont-ils peur? Que tout le monde s'engouffre s'ils entr'ouvrent la porte? Mais qu'est-ce qu'ils croient? Le temps des migrations est terminé. Presque plus personne n'a les moyens de voyager. Les miséreux, les incultes, sont attachés à leur coin de terre, prisonniers de leur solidarité de quartier. Au pire, ils traverseront une frontière vers un pays plus pauvre encore pour fuir une guerre ou une famine. »
Assis sur le lit près de la fenêtre, Whistler jouait doucement de la guitare, accompagnant la longue complainte de Savorgnan.
Les candidats au grand départ sont rares, Leïli. Ceux qui traversent la terre entière ne sont pas des hordes d'affamés jetées sur les routes. Ce sont les audacieux, les ambitieux, les inconscients, les désespérés, les bannis, les fous, les rêveurs, les libres, presque jamais les femmes.
Rarement les pères de famille.
De plus en plus souvent les enfants.
Savorgnan se tut enfin, baissant des yeux embués vers la photographie de Babila, sa fille et Kayvan.
« Les fous !»
répéta-t-il lentement. Zaherine sortait des toilettes. Ruben en profita pour verser le reste de sa fiole dans les tasses devant lui. Tous les hommes en prirent, même Savorgnan cette fois. L'ado s'était reculé, comme indifférent à la conversation, et chantonnait en bambara au rythme de la guitare de Whistler.
Tous les pays du monde ont signé les conventions des droits de l'enfant, fit Zaherine en prenant à nouveau Leïli à témoin. Mais dès qu'il s'agit d'un mineur entré clandestinement, un gamin qui risquera d'aggraver les déficits publics parce qu'il faudra s'en occuper jusqu'à sa majorité, on s'assoit sur ses droits. On s'arrange pour lui trouver un pays dans lequel le réexpédier. Une famille approximative et à défaut, on le laisse traîner hors des foyers, histoire que la rue se charge de son éducation. On l'expulse dès sa majorité, à 15 ans, en considérant qu'il ment forcément sur son âge.
Un long silence emplit la pièce. Ruben retourna sa fiole, mais elle était vide. Les trois Béninois burent la dernière gorgée de leur tasse. Leïli en profita pour se lever, aspirateur en main. Zaherine la retint.
Tu vois, Leïli, notre seule force, c'est qu'ils ne pourront jamais se passer de nous.
Il se tourna vers Ruben.
Je ne dis pas ça pour toi, vieux fou. Tu n'es qu'un tout petit exploiteur qui soulage sa conscience en nous invitant à boire sans même avoir plus d'un litre de mauvaise gnôle espagnole à nous offrir.
Ruben éclata une fois de plus de rire. Je dis cela pour l'homo megapolitas, l'arpenteur radieux des grandes villes riches de la planète. L'homo megapolitas aura toujours besoin de nous pour faire les 3D, comme disent les Américains. Dirty, dangerous, dull. Qui pourrait nous remplacer? Qui en aurait envie, du moment que nous sommes invisibles? Du moment que nous restons des fantômes, mais que les rues des grandes villes sont propres au matin, les poubelles vides et que les vitres des tours brillent. Du moment que lorsque le jour se lève, les animaux nuisibles, ceux sans qui aucun écosystème ne pourrait survivre, rentrent dans leur terrier. Leïli fit un pas vers la porte, ajusta son foulard, son tablier. Le courage, elle l'avait eu, il y a longtemps. Son stock était épuisé. Elle sortit. Quelques instants plus tard, un bruit d'aspirateur recouvrit celui de la guitare de Whistler. Dans le couloir, elle croisa Noura, les bras chargés de draps. La jeune métisse ne leva pas la tête, perdue dans la musique qui grésillait de ses écouteurs, Elle ne sembla pas remarquer sa présence, ni même entendre le son de l'aspirateur. Layli la dépassa. Une expression continuait de trotter dans sa tête. L'international éclatait.